pas retourner à Tarbes. À Tarbes. C'est un peu loin de là où je vis désormais. Les mois passent, la ville où je suis née, oh Tarbes. Quand j'y vais, je dors chez ma mère. J'essaye de passer voir mon père. Je pense aux Pyrénées. Aux années de lycée, quand déjà je savais que je partirais un jour de ta.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4. Longtemps je me suis couché de bonne heure, Francis Gavel au micro. De la Féline, ci-devant autrice, compositrice, interprète et portée par une discographie qui comprend d'ores et déjà 3 albums studio à juste titre pris en considération, on dira au détour qu'elle est à la ville, sous le nom d'Agnès Guéraud, philosophe et professeur d'esthétique, et que la publication en 2018 aux éditions de la Découverte de sa dialectique de la pop continue à accompagner nos réflexions sur les pratiques, tiens, on pourrait croire que je vais parler du monde du cinéma, pas du tout, artistique et industriel du milieu de la musique. Ainsi, de ce questionnement sur le sens de la fête, on poursuit côté clin d'œil cinématographique. Dionysiaque et véhicule de l'extase, la musique déchaîne les émotions et les pulsions, mais elle possède aussi le pouvoir de les discipliner. L'humanité est depuis longtemps familière de cette double expérience et fait la part entre les musiques dionysiaques et les musiques orphiques, les extatiques, les apaisantes, les disciplinantes. Or, la question est de savoir si la musique qui déchaîne les pulsions, la musique de la fête, la musique de l'extase, n'est pas elle-même disciplinante. Est-ce que Dionysos ouvre une brèche dans le système de la culture rationalisée ou bien la fortifie en parfait agent double, cathartique et neutralisant ? Même après des décennies de free party et d'émancipation par la fête, la question reste toujours ouverte. Est-ce que la fête soulage la frustration de l'aliénation ou émancipe de cette aliénation ? Il est sans doute réactionnaire de dénoncer les fêtes, mais aucune garantie n'est donnée qu'une fête soit émancipatrice. Mais cette fête ambiguë n'est pas n'importe laquelle, c'est la fête industrialisée, la fête orchestrée par l'industrie du fun. Mais fermons cette parenthèse réflexive qui passe place notre pensée sous les auspices salvateurs du doute et évoquons ce quatrième album de La Féline, ce tarbe sur lequel j'avais écrit sur la page de l'émission que nous avons, concession communicationnelle de l'époque, ouverte sur un méta-réseau social, l'argumentaire suivant, si discrètement remanié. Ici, discrètement remanié, attention. Un très grand disque arrive le 14 octobre prochain sur vos chaînes IFI. Retour à la ville natale, ce pourrait également être Roanne ou Amiens, dont on s'arrache, mais qui ne vous lâche jamais. 13 chansons qui s'acheminent vers le journal intime plutôt que du côté de l'album concept, 13 compositions qui rappellent un tissu ouvrier et accompagnent une paupérisation, 13 titres en demi-teinte soudainement parcourus de déflagration dance floor allongée, ainsi de jeux dansés allongés, implacable et impeccable single à écouter en boucle, et de chorales aspirateurs à émotion comme sur ce tarbe retourné à, écouté en ouverture d'émission et qui débute par une sifflante note tenue que n'aurait sans doute pas renié le défunt Marcolis à l'écoute des ultimes albums de Talk Talk ou de son unique album solo. Et ce matin, presque lyrique, j'ajouterai à ce poste final. Avec Tarbes, c'est l'hexagone qui déplace soudain son centre d'attractivité vers sa frontière franco-espagnole. Et c'est la chanson française qui, loin des territoires médiatiquement surexposés, exhale ses plus belles inspirations. Voilà, on a ouvert l'émission avec quelques petits pains dans ce texte, mais on est joyeux, on est heureux de se retrouver. Thomas Fouet, qui nous a manqué au mois de septembre, est de retour au micro. Et donc, qui dit Thomas Fouet, dit fiche du cinéma. Qui dit Thomas Fouet, dit table ronde critique. Qui dit Thomas Fouet, dit je ne sais pas.
Oui, tant d'autres choses. Encore. Tant d'autres choses. Merci Francis, et je plus sois quant à ce qui vient d'être dit, quant à La Féline et à Agnès Guéraud. Très bel album, et Dialectique de la pop, c'est aussi un livre qui depuis quelques années m'accompagne beaucoup dans mes réflexions sur la pop et tout ce qu'elle implique. Chères auditrices, chers auditeurs, bien le bonjour, nous sommes le samedi 22 octobre 2022, l'essence est rare, le fuel est cher, Sochaux est 3e de Ligue 2 et Amiens est 4e à égalité de points, je le précise. J'en profite pour saluer mon camarade Clément Deléchaud à qui j'ai promis que cette année nous allions remonter tous les deux en Ligue 1. C'est donc à un tour d'horizon des sorties en salle que nous vous invitons aujourd'hui. Nous avons au programme ce matin un cartel de très grands cinéastes, Albert Serra, Jerzy Skolimowski, Christian Mungiu et James Gray, et aussi quelques espoirs et signatures moins connues, une programmation très cannoise, quoi qu'il en soit. J'ai glissé dans cette sélection ce qui est pour moi le plus beau film de l'année, peut-être même ai-je d'ores et déjà cité le nom de son auteur, mais pour l'instant, n'en disons rien. Je souhaite donc la bienvenue à la rédaction des fiches du cinéma, représentée par certaines de ces fines plumes et langues bien pendues. J'ai nommé Marine Quinchon, bonjour Marine.
Bonjour.
Simon Marot, bonjour Simon.
Bonjour.
Et c'est un événement, notre rédacteur en chef Nicolas Marcadet. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Je sais que tu nous l'as dit en antenne ce matin, tu n'avais pas les enfants, tu comptais faire une petite grasse matinée bien méritée. Et bien voilà, je suis désolé d'avoir pourri ton samedi.
Avec plaisir.
Mais très heureux de te retrouver parmi nous. Et je précise, Francis, que bien évidemment, tu te joins à nous pour cette table ronde. Je vous propose que nous commencions avec un vieux de la vieille, ce qui n'est pas l'insulter, bien au contraire, mais souligner une longévité et un talent exceptionnel. Je veux parler de Jerzy Skolimowski, 84 ans au compteur et toujours l'esprit aventureux. Parmi ses plus beaux films, citons Le Départ en 1967, mais aussi plus tardivement Deep End, Travail au Noir, Le Bateau Phare et plus récemment Essential Killing avec ce cinglé de Vincent Gallo. Sans oublier le film qui me l'a fait connaître, le splendide 4 nuits avec Anna, c'était en 2008. Et oh, le film qui nous intéresse aujourd'hui s'inspire donc de l'œuvre de Robert Bresson, Au hasard Balthazar, bien que Skolimowski préfère, semble-t-il, que l'on n'insiste pas trop là-dessus. Et il narre les mésaventures successives d'un âne qui, son cirque fermant, se retrouve jeté sur les routes, appelé à faire différentes rencontres et à voir défiler un échantillon de l'humanité qui, on l'espère, n'est pas trop représentatif, sinon autant fermer boutique. Le film était en compétition officielle au dernier festival de Cannes, d'où il est reparti avec le prix du jury, partagé avec les 8 montagnes, l'interminable épopée alpestre de Félix von Groningen et Charlotte van der Mersch. Au casting de EO, on retrouve Sandra Drimalska et Thomas Organek et une petite apparition de notre Zaza nationale, j'ai nommé Isabelle Huppert, dans ce qui est peut-être pour moi maigre réserve, la partie la plus faible du film. Paul Fabreuil, des fiches du cinéma, ébloui par le film, en a rompu avec sa traditionnelle réserve critique, je le cite. Le critique a quelquefois bien du mal à parler d'un film tant non seulement il l'a aimé, mais sa vision l'a remué, lui a fait perdre pied. Tant la force esthétique de l'œuvre lui a fait vivre une expérience d'une intensité émotionnelle qu'il ne pouvait pas imaginer vivre un jour. C'est le cas pour moi avec ce chef-d'œuvre qui, tel un météore, a illuminé le ciel cinéphile de Cannes. Voilà ce qu'on appelle de l'enthousiasme. Un texte à retrouver dans le hors-série spécial Cannes des fiches du cinéma, lequel, je le précise, à nos millions de lecteurs, est à consulter gratuitement sur notre site et est donc sorti en salle ce mercredi 19 octobre. C'est d'ailleurs, je le rappelle, la une du dernier hebdo des fiches. Mais madame, messieurs, qu'en avez-vous pensé? J'ai envie de me tourner vers Marine. Je sais que la cause animale te soucie, tout autant que le cinéma, bien sûr, tu es tout à fait capable d'articuler les deux et je te donne la parole.
Oui, mais quand les deux sont ensemble, les animaux et le cinéma, et ben forcément, ça multiplie le plaisir, quoi. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec Paul Fabreuil sur, je tairai l'identité réelle, sur le fait que c'est un film qui est très remuant dans la mesure où Anan, c'est forcément un petit peu innocent, hein, et donc... en fait, comme il s'en prend vraiment plein la figure, on ne peut avoir que de la compassion, on peut avoir que de l'empathie et de la compassion, bien que ce soit un animal qui est interprété par Cézanne, hein, je le précise quand même, parce qu'on pourrait croire que derrière... Voilà. Et c'est un film où Skolimowski continue d'inventer en permanence dans sa mise en scène, dans son montage, dans la façon dont il utilise la musique aussi, qui est très présente dans le film. Et on en ressort, je pense, oui, très ému, parce que cette épopée qui est donc sur le modèle du film de Bresson ou sur les mémoires d'un âne, pour ceux qui ont lu ça quand ils étaient petits, ça synchronise toutes les émotions humaines à travers cet animal, c'est-à-dire la violence, l'amour, la tendresse, l'indifférence, tout ce qui peut... En fait, il va catalyser toute cette, au fur et à mesure de son voyage, toutes ces émotions et... Et évidemment, ça se termine mal, mais sinon, ce serait pas drôle. Mais c'est vraiment un film ouais, très émouvant et visuellement assez impressionnant quand même, malgré l'âge du cinéaste. Enfin, voilà.
Oui, c'est toujours très étonnant de voir un cinéaste de cet âge-là se prêter à de telles recherches formelles, notamment Nicolas.
Bah oui, c'est ce qui est même ce qui est frappant en premier lieu, je trouve, dans ce film, c'est que c'est vraiment ça confirme que c'est les vieux cinéastes qui font les films que font pas les jeunes, quoi. Qu'on cette espèce d'audace, de manière de s'emparer aussi des outils numériques, de
comme Godard a pu le faire de la vidéo,
voilà, très
Godard,
tôt,
du numérique plus récemment.
Oui, donc c'est un film quand même assez saisissant de ce point de vue. Franchement, moi je peux je suis un peu obligé de préciser les conditions de vision par rapport à un film comme ça, c'est-à-dire que c'est vraiment un film vu à Cannes.
Le pire endroit du monde pour découvrir des films, comme le dit notre camarade Christian Berger.
Oui, ce qui est un peu simpliste. Des fois, c'est le meilleur endroit pour découvrir des films. Mais il y a aussi des moments où il y a certains films dont on prend connaissance de ces films, mais on ne peut pas dire qu'on les a réellement vus. Bon, selon comment ils sont positionnés dans le truc. Bon. Et là, pour moi, c'est un peu ça. Vu la nature du film, le moment où il est venu, un peu tard dans la soirée, et après, notamment, le James Gray. J'ai l'impression de d'avoir pris connaissance de ce qu'est cet objet invraisemblable et de pas du tout avoir été dans la même émotion que Paul
ou Marie, dont c'est le vrai nom,
mais dans une espèce d'admiration, de d'étonnement et de je trouve le film en perpétuelle recherche de moyens de pour traduire des sentiments, des sensations du récit avec un personnage qui ne parle pas, etc. Donc le film redouble d'invention et puis moi je trouve que ça passe ou ça casse, quoi. Et plutôt quand le film est vers quasiment l'abstraction, ça fonctionne plutôt bien, enfin même bien, parce qu'il y a une réelle audace et parce que même si le geste est quand même un peu enfantin, cherche à être un peu enfantin ou primitif, on sent que le type qui tient la caméra sait comment on place une caméra. Et donc quand il veut juste faire se mettre du point de vue de l'âne, et ben il est au bon endroit, et ça passe. Après, je trouve que les scènes de j'allais dire les scènes de comédie, c'est-à-dire que comme dans un porno, hein, c'est un peu ça. Il y a des moments d'abstrait machin, puis il y a des scènes de comédie qui sont moins convaincantes, qui sont un peu justement pas loin d'un porno, c'est-à-dire c'est joué un peu de manière, ça fait un peu patronage, je trouve, à certains moments, mais voilà. Mais globalement, beau geste. Hein.
Un beau lift.
Je rejoins complètement la réserve de Nicolas. Je sais pas trop quoi faire de ce film. Effectivement, je suis d'accord avec vous sur l'audace, l'expérimentation visuelle et sonore du film. Assez impressionnant, mais c'est vrai que le film est au plus haut quand il est près de son âne et qu'il en propose une autre vision de l'anthropomorphisme. Justement, je trouve ça assez intéressant et assez bouleversant par moments. Mais alors, dès lors qu'on s'éloigne de l'âne et qu'on se raccroche au personnage humain, je trouve que le film perd complètement pied et donne cette impression de vouloir remplir une sorte de programme déjà assez chargé, parce que très abstrait déjà. Et notamment, tu l'avais évoqué plus tôt, Thomas, moi je trouve que la dernière partie, la partie en Italie, notamment avec Isabelle Huppert, je trouve que là, cette partie-là m'a complètement sorti du film. Et
c'est mon cas aussi, j'avais même soupçonné à l'époque qu'il s'agissait d'une sorte de montage financier pour justifier une éventuelle coproduction française. Il se trouve qu'en l'occurrence, pas du tout, il n'y a pas de fonds français dans le film a priori.
D'accord.
Je suppose que l'image d'Isabelle Huppert à l'international fait que ça facilite un certain nombre de financements, à plus forte raison pour un film a priori aussi difficile à monter et à défendre devant des commissions.
Mais je trouve que c'est dommage parce que cette partie intervient avant la toute fin. Et moi, du coup, je suis passé complètement à côté de cette fin qui, symboliquement, dans le message, est assez forte. Mais là, c'est vrai que toute cette partie humaine, moi, m'a complètement désarmé et pas du tout convaincu.
Francis,
J'ajouterai pas grand chose par rapport à tout ce qui a été dit. Moi, je suis assez du point de vue de Marine et je comprends les réserves que peuvent avoir Simon et Nicolas, sachant qu'effectivement, j'avais les mêmes sur la partie avec Isabelle Huppert, quoi. Que je trouve même
tout
pas
le monde,
bonne
je
du
crois,
tout,
elle
quoi.
Sert à rien. Ça,
et puis on quitte vraiment le personnage d'Eo, alors que le reste du temps, on peut se dire que même avec les interventions humaines, il reste quand même présent.
C'est alors que là, il est carrément sorti du récit, il n'est plus témoin de ce qui se joue à un moment donné.
Tout à fait.
Effectivement, on fait un pas de recul par rapport à cette ambition qu'a le film d'épouser le regard, le point de vue de l'âne. Oui.
Alors, après, effectivement, tu parlais de Au hasard Balthazar. Sur la forme, on peut dire que c'est de l'anti-Bresson. Quoi. C'est pas de l'épure, c'est au contraire, dans ces beaux passages abstraits, une avalanche d'effets, cette lumière rouge qui est présente comme le sang qui coule. Enfin, c'est absolument fantastique, magnifique. L'image que vous avez prise là pour la couverture des fiches avec
la traversée du pont.
La traversée du pont qu'on voit très loin avec cette espèce de façade très haute derrière. Enfin, c'est saisissant. C'est bourré d'images saisissantes qui sont pour moi anti-bressoniennes, quoi. Justement, on parlait des acteurs. Bah, les acteurs, c'est un peu le contraire. Chez Bresson, les modèles, ils devaient rien faire. Là, ils en font trop. Et Isabelle Huppert, là, en fait tellement trop que on sent qu'elle fait quelque chose, quoi. Donc c'est vrai que finalement je comprends que Skolimowski se dise moi j'ai pas envie qu'on parle tout le temps de Bresson. À la limite j'aurais presque envie, quand le film fonctionne, et il fonctionne quand même très souvent, de dire que c'est plus proche du Bovine d'Emmanuel Gras, où on est vraiment avec l'animal quasiment tout le temps, et chez Emmanuel Gras on est vraiment avec les vaches tout le temps, quoi. Après, la seule petite analogie avec le Bresson, pour moi, c'est la fin, en fait. Dans Au hasard Balthazar, à la fin, l'âne est tout seul, recueilli dans une famille d'accueil, c'est les moutons. Et là, Eo est tout seul au milieu des vaches, à la fin, comme recueilli. Et à chaque fois, le dernier plan, c'est un peu... on les conduit, et là aussi, ça rappelle Bovine, on les conduit vers l'abattoir, quoi, en fait. Et même si lui, il est un petit peu à distance et tout, quoi, il est quand même là, et c'est l'endroit où, finalement, il est recueilli par des gens. Après, moi, il y a un élément que j'ai beaucoup aimé dans le film et qui est assez incroyable, c'est ce que j'appellerais le traitement, les différences de valeurs entre les différents équidés. Et tout au long du film, il y a ça, il y a le parallèle entre les chevaux et l'âne. Et c'est comme s'il y avait une transposition du mépris de classe, alors induit par les humains, mais finalement aussi vécu par les animaux, où l'animal noble, c'est le cheval. Le cheval est au centre de toutes les attentions, tout le temps, et l'animal qu'on délaisse, parce qu'il est là pour faire les tâches pas très nobles, c'est l'âne. Mais en même temps, en n'étant pas au centre des attentions, finalement, c'est lui qui, à un moment, se retrouve au bord d'une autoroute, dans une station-service, et peut se défaire de son lien attaché à un bout de bois qu'il est, et partir. C'est lui qui peut faire une ruade dans une ferme et partir aussi alors que les chevaux sont dans leurs enclos. Je trouve que le film est fascinant à ce niveau-là, dans ce parallèle qui est construit tout le temps, sans qu'il soit, là, je le trouve explicatif, mais il apparaît, comme Nicolas disait, il sait où placer sa caméra. Bah là, on n'a pas besoin de nous faire un discours. Paf, il la met et on voit tout de suite, là, nos premiers plans, les chevaux derrière qui s'ébrouent dans un grand champ où ils ont toute la place et lui qui est enfermé. Quoi. Et je trouve que le film est très brillant aussi sur ce plan-là. Quoi.
L'âne envisagé comme le prolétaire du cheval. C'est donc Eo de Jerzy Skolimowski et c'est d'ores et déjà en salle. Nous allons poursuivre sur un autre film cannois, un autre film de la compétition officielle. Il y en a quatre au programme aujourd'hui avec Armageddon Time de James Gray, candidat au titre de plus grand cinéaste états-unien contemporain. James Gray n'en semble pas moins cantonné au rôle de l'éternel outsider, du lutteur solitaire repartant bredouille des festivals et n'attirant pas la foule espérée en salle. Accueilli sinon fraîchement, du moins poliment au dernier festival de Cannes, salué du bout des lèvres comme une œuvre mineure, son nouvel opus Armageddon Time ne joue pas des coudes, en effet, pour épater son spectateur. Nous sommes donc dans le Queens, au début des années 80, où nous allons suivre le jeune Paul Graff, collégien rêveur et un peu relou aussi, alter ego du cinéaste, car c'est un récit à forte teneur autobiographique. Paul dessine, Paul tape sur le système de ses parents, Paul adore son grand-père, juif ukrainien qui autrefois émigra aux États-Unis pour échapper au pogrom. Paul, enfin, fait les 400 coups avec son meilleur ami Johnny, enfant noir de sa classe et en butte au racisme. Ensemble, ils vont faire un drôle d'apprentissage, façon de parler, bien évidemment. Au casting et autour des jeunes Paul Banks, Repetta et Jaylin Webb, on retrouve Anne Hathaway, Jeremy Strong et Anthony Hopkins, et aussi dans un rôle très bref mais qui a toute son importance, Jessica Chastain. Je te cite, Nicolas, dans l'article que tu consacrais au film, dans leur série spéciale Cannes des fiches du cinéma, en série qui, je le rappelle, à la foule de nos followers, est accessible gratuitement sur notre site. Gray pose en sous-main les bases d'un thème qu'il va ensuite creuser de façon constante et complexe, sans se laisser détourner par rien de périphérique, le positionnement social, c'est-à-dire la place que l'on désire, celle que la société nous accorde ou nous fait miroiter, et celle que l'on choisit en arbitrant entre tout ça, avec les dilemmes moraux qui sont à la clé. Comment ne pas renoncer à la réussite, tout en restant fidèle à soi-même et en pouvant continuer à se penser encore du côté du bien. Le film sera en salle le 9 novembre. Qui veut ouvrir les hostilités ? Si je puis m'exprimer ainsi. Est-ce qu'on continue sur Nicolas ? Puisque je sais, j'ai envie de te donner la parole, je sais que c'est un film que tu chéris.
Bah oui, 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 c'est un film que j'affectionne beaucoup en tout cas. Oui, après. Ouais, moi j'aime bien les films qui me. Qui avance un peu l'air de rien et qui progresse, plus ça avance, plus on se dit quand même c'est consistant, c'est plus touchant que ça aurait pu qu'on aurait pu penser, c'est plus malin, c'est plus mis en scène aussi. Je trouve qu'il y a un mouvement dans le film d'un truc un peu conventionnel au début et je trouve qu'il y a des grands moments de mise en scène plus tard, des choses voilà très très bien pensé, très carré, très simple.
Pourtant, ne s'envisage pas comme des morceaux de bravoure.
Non, voilà, pas du tout dans les c'est pages. Vraiment, mais c'en est. Mais c'est pas vendu comme ça. Je sais pas, il y a effectivement un rapport à l'autobiographie qui est déjà, je trouve, assez intéressant. Comme tu dis, son personnage, il est mignon, mais il est relou. Il y a une espèce de truc assez sans concession vis-à-vis de son personnage, et je trouve ça, j'avais rarement vu ça. C'était un truc qui est pas du tout attendri, machin, c'était beau l'enfance, et puis vous regardez, j'étais quand même un peu surdoué, et c'est pas non plus un truc où il se casse la gueule, où il fait un espèce de mea culpa, machin, c'est un truc très très cash sur les ambiguïtés de son personnage, très bon. Et après, moi, c'est effectivement ce... le fait que le film glisse d'une espèce de chronique adolescente, autobiographique, assez convenue, et qu'en fait se révèle être un film à thème, quoi. Enfin, c'est-à-dire vraiment là ce que je disais dans l'article, cette question du positionnement social, je pense qu'elle est. Je pense qu'il n'y a pas un élément du film qui soit narratif ou servant l'émotion, la psychologie, etc., qui ne contienne pas quelque chose qui a à voir avec ça. Et ça, moi, je trouve ça très malin, très fort d'avoir réussi à faire ce truc où c'est perpétuellement en double niveau. C'est-à-dire que ça développe un discours qui n'est pas non plus un. Qui n'est pas un prêche, il n'y a pas une idée à laquelle il faut adhérer, mais ça questionne ce problème de où on se place dans la société et jusqu'à quel point ça implique des concessions, des trahisons, etc. Les choses sont vraiment bien emboîtées dans ce discours, tout en étant, tout en maintenant le fil de c'est la chronique de cette enfance, c'est la découverte de sa vocation artistique, son rapport avec son grand-père. Et voilà, je trouve que voilà, c'est pour moi c'est le contraire d'un film mineur. C'est-à-dire justement, c'est un film qui avec une espèce de grande légèreté et dense, quoi, vraiment très c'est un film dense.
Dense et politique. Tu évoquais effectivement cette problématique du positionnement social qui traverse le film, et puis j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de films qui, en se plaçant dans la reconstitution d'une époque, envisagent de nous parler du contemporain, mais en établissant des parallèles ou des similitudes, alors que celui-ci a un autre mérite, ce qui est beaucoup moins évident, c'est de tracer une ligne droite entre une situation passée et une situation contemporaine, on pourrait dire en gros entre Reagan et Trump, c'est-à-dire de nous donner à voir la catastrophe qui va se produire.
Ah, il le décrit quand même, oui, littéralement, et je trouve
et
ça c'est...
Nommant. Et Reagan et Trump.
Ouais. Et ça, c'est en ça aussi que le film est pas mal. C'est, je pense que ça joue pas le film générationnel au sens de clin d'œil, il y a des choses qu'on a en commun, etc. Mais je pense que c'est un film générationnel, parce que moi, pour avoir à peu près le même âge, je vois ce dont parle le film, cette espèce de choc d'une transition, d'un changement de valeur dans la société, et de notamment de la place qu'occupe la culture, qui est une valeur sociale au début, qui n'en est plus une après. Cette espèce de transition d'un monde vers un monde tout pognon, enfin, ça m'est assez familier.
Oui, ce sont des problématiques que nous connaissons. Ouais. Francis, Simon, Marine, qui veut enchaîner? Allez, Simon.
Je vais continuer. Oui, c'est une œuvre générationnelle, politique, et aussi avec un apport aussi extrêmement personnel. Moi, ça m'a beaucoup touché aussi, ces éléments autobiographiques, et ce questionnement aussi autour de l'importance et le rôle de l'éducation, que ce soit par l'autorité scolaire ou par les parents. J'ai beaucoup aimé, oui, ce questionnement sur le déterminisme social, qui est entretenu par les parents, qui est un peu moins entretenu par la figure du grand-père, qui se démarque de ce mouvement-là. Oui, c'est un beau film, c'est un grand film qui ne se présente jamais comme tel. Et ça, je trouve qu'en termes d'approche, je trouve ça très intelligent et très humble. Non pas qu'un excellent film se doit d'être humble, mais j'aime effectivement ce côté. C'est une œuvre qui est pas forcément évidente quand on la regarde, c'est-à-dire quand on l'amorce ou quand on débute le film, on sait pas trop.
On commence pas à effrayer les gens, on va enchaîner sur Pacific Fiction. Je vais te dire, moi j'en ai envoyé des gens voir Pacific Fiction, déjà ils sont pas prêts de me pardonner.
Hein. Oh non, t'es dur.
Mais c'est un peu l'inverse là. Ce qui peut être déroutant, c'est que c'est peut-être trop simple même le
mais justement, je trouve que ça, vu que c'est une œuvre de James Gray et qu'elle intervient à un moment intéressant dans sa filmographie. Ouais. C'est vrai que du coup, après Ad Astra, on se dit, bon, qu'est-ce qui nous réserve sur un tel sujet? Et moi, c'est vrai que ça m'a un peu désarmé les 30 premières minutes, parce que je me dis, où est-ce qu'on va? Je ne sais pas trop de quoi ça parle et vers quoi on va se diriger. Et effectivement, tout se met en place au fur et à mesure. Et à la fin, le film est une évidence. Ça c'est sûr, mais c'est vrai que j'ai eu une appréhension, on va dire, en débutant le film.
Mais c'est un film qui, comme Ad Astra, d'une certaine façon, ne fait rien d'autre que tracer une ligne droite, Ad Astra d'un fils vers son père, et Armageddon Time d'une époque vers une autre. Effectivement, on est à un point de rupture dans la société états-unienne, mais au-delà. Marine.
Ouais, moi je trouve que cette hyper-lisibilité, entre guillemets, des films de James Gray, c'est vraiment son grand, grand talent. Enfin, depuis les débuts, en fait, c'est le fait, je dirais pas que c'est, tu parles d'une ligne droite, c'est presque une ligne claire, en fait, je veux dire, tout est compréhensible immédiatement dans ces films, et cette apparente simplicité qui, en fait, découle d'un talent sur le montage, sur la mise en scène, justement, la façon dont il va diriger sa caméra pour suivre ou pas ses personnages, pour choisir de les laisser à tel ou tel endroit. Tout paraît tellement facile, tellement simple chez lui, que moi je trouve ça assez fascinant. Et alors après, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que les acteurs, je trouve, comptent vraiment beaucoup dans le film. Enfin, moi par exemple, Kay Mark Strong, Anthony Hopkins, tout ça, je trouve que c'est... Enfin, ils sont extraordinaires. Le gamin est super parce qu'il est très tête à claque, effectivement, et que je pense qu'on en a tous connu un comme ça. On peut même se reconnaître un petit. Voilà, on peut même se reconnaître peut-être un petit peu dans ce personnage.
Ouais, moi un petit rouquin relou, moi c'est. Vous me voyez pas à l'antenne, mais ça me parle.
Et puis, effectivement, il y a une forme d'évidence toujours dans ces films que moi je trouve vrai. Que je trouve assez passionnante et qui nous touche forcément un peu au cœur. Et James Gray, je trouve qu'il a ce grand mérite quand même de revenir systématiquement à Cannes alors qu'il sait qu'il repartira sans rien. Je ne sais pas pourquoi il revient, en fait. Je ne sais pas pourquoi il ne va pas dans d'autres festivals parce qu'on ne le lui rend pas, quoi, jamais.
Et par attachement, par masochisme.
Je ne sais pas, oui.
Il voulait un autographe de Vincent Lindon, peut-être. Je sais pas.
La croisette.
Pour le soleil, voilà, peut-être. Mais ouais, c'est un très beau film, et qui est aussi un film qui s'adresse à un public un peu plus large. Je pense que ces autres films, on peut y aller avec des ados, voire des jeunes ados, quoi.
Francis, je sais que, ou je crois savoir tout du moins, tu y as fait allusion sur les réseaux sociaux, je crois récemment, que tu as beaucoup aimé le film.
Ouais. J'avais un peu pris pas mal de distance avec James Gray, non pas que je voulais, mais comme ça, quoi. Je dirais que je suis allé jusqu'à Two Lovers, et puis après, c'était un peu lointainement. Je savais que les films sortaient, mais je ne les voyais pas forcément, ou je les récupérais après sur petit écran, ce qui n'est pas le meilleur endroit pour un film de James Gray, je pense. Et là, j'avais une très forte envie, vu tout ce que j'avais lu du passage cannois, et sachant très bien que, comme le disait Marine, de toute façon, tu n'auras rien, mon petit père. Là, on parle des films qui n'ont rien eu aujourd'hui. Des films cannois qui n'ont rien eu, en fait.
Oui, on va en citer un autre juste après. Juste après, c'est le scandale est encore plus flagrant, mais je te laisse poursuivre.
Et donc.
Et ouais, a eu le prix du jury, mais bon.
Ouais, mais il aurait mérité.
C'est un peu la médaille en chocolat, plus, effectivement. Ouais.
Et donc là, je suis revenu avec beaucoup de. Effectivement, de force émotionnelle, avec beaucoup de plaisir. Moi, je me suis vraiment laissé absorber par le film. Je me suis dit deux petites choses, en fait. Je me suis dit que je me rappelle surtout des trois premiers, quoi, Little Odessa, The Yurt, La Nuit nous appartient, qui étaient, à mon sens, des films policiers. Mais ce qu'il y avait au cœur de ces films, à chaque fois, c'était la famille. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, film après film, à chaque fois, même en les ayant suivis de loin en loin, ils se dépouillent de tout ce qui va être thématique de genre, le polar, la science-fiction, tout ça, pour faire un film uniquement basé et axé sur la famille. Et là, je trouve que d'un seul coup, il y a ce qui constitue chez James Gray l'élément central de sa filmographie et de son propos d'auteur. En dehors, bien évidemment, de tout ce qu'a dit Nicolas, mais je dirais dans le caractère intime de ce qui peut être l'auteur James Gray, je trouve que c'est la famille, et que là, la famille, elle est exposée au premier plan. Et je trouve ça assez, assez fabuleux.
Notamment dans les relations père-fils, il y a une scène, je n'en révélerai rien, bouleversante entre un père et son fils. Il y en avait une à la fin d'Ad Astra, mais évidemment, le contexte était très différent, mais c'est quelque chose qui se reproduit de film en film, et cette figure-là, il la tient.
Voilà. Et alors après, moi, j'ai eu un petit parallèle en voyant le film. D'abord, un peu comme tu l'as dit, Thomas, dans ta présentation, le gamin, il est gentil mais relou. Ça m'a fait penser à un autre, alors qui est plus grand, mais qui est aussi gentil et relou, et encore plus relou même. Hein, c'est le personnage masculin de Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson.
Quelle tête à claque.
Voilà. Et en fait, moi, je sais pas, quand j'ai vu le James Gray, en plus, j'ai vu le James Gray et le Paul Thomas Anderson, c'est pour resituer un peu les conditions de visionnage, comme a fait Nicolas tout à l'heure, dans la même salle.
Donc, je ne sais pas, il y a des moments où les deux films me sont arrivés ensemble. Peut-être parce qu'ils sont aussi les chroniques d'une époque. Des films fleuves, des films qui ont comme ça un tempérament un peu autobiographique. Je dirais qu'il est plus axé peut-être chez James Gray que chez Paul Thomas Anderson, à mon sens. Et puis comme les deux sont des cinéastes avec lesquels j'ai des relations assez étirées, donc c'est vrai que je les maîtrise pas bien, quoi. Mais voilà, c'est un petit peu tout ça qui m'a vachement impressionné dans le film. Et puis, bah, tu sais, mais Thomas, mes découvertes musicales à contre-temps, quoi, avec beaucoup de retard, quoi. Bah là, j'avais envie d'écouter Sugar Hill Gang, quoi.
Ce qui est une excellente idée. Mais surtout et avant toute chose, allez voir Armageddon Time de James Gray. Ce sera donc en salle le 9 novembre. Je vous propose à présent que nous fassions une courte pause musicale avec les londoniens de Black Midi, dont le troisième album Hellfire est sorti en juillet. Un LP où le rock parfois bruitiste, mais déjà complexe et riche en influences des débuts, fait place à une ambition nouvelle, la preuve, avec ce morceau à la fois concis et épique, une façon de pop capiteuse dont le timbre lyrique et les cuivres nous enverraient presque sur une scène de Las Vegas. Une courte pause donc, et on se retrouve tout de suite après.
When crowds swarm out doorways and the street lamps are lit, one of my disciples begins his wandering. In the alleys, in the main streets, he searches for men, the virile, pathetic, and lame, leading them in to our establishment. He starts to cry every night. Bank as safe and as formal and sanitary. My girls are destined for hell, or so says our priest. But find me a Christian who spends as much time on their knees closer to God. Honor his glory in the best way. Every day, without my aid, they'd be in chains or disemboweled in a backstreet lane. Heart stops selling when you stop buying. Till the end of time, you can hear the cry. I'm prostrate.
De retour sur les ondes de Radio Libertaire 89.4, vous écoutez longtemps, je me suis couché de bonne heure, Thomas Fou au micro, en compagnie de Francis Gavel, bien évidemment, et de la rédaction des fiches du cinéma. J'ai nommé Simon Haro, Nicolas Marcadet et Marine Quinchon. À l'instant, nous écoutions The Defense de Black Midi. Nicolas Marcadet va bientôt nous rejoindre. Il a très gentiment, en bon rédacteur en chef, offert la tournée de café à l'équipe. Voilà. Merci Nicolas, c'est adorable. Et nous reprenons donc notre tour d'horizon des sorties en salle avec Pacifixion d'Albert Serra, le plus beau film de l'année, de toute évidence. Voilà, il n'y a pas de débat. Je pose ça là et après je vous laisse débattre.
En quelques mots, Tahiti, Polynésie française de nos jours, de réceptions officielles en conciliabule avec les acteurs de la politique locale, élus ou militants, en passant par les bars qu'ils fréquentent, le haut commissaire de la République de Rolaire, interprété par Benoît Magimel, fait face à une rumeur qui met l'île en émoi, celle d'une possible reprise des essais nucléaires décidés par la métropole. Que veut dire de ce film ? J'ai le sentiment de l'avoir rêvé, qu'il me semble dire quelque chose tout à la fois d'un territoire réel et contemporain, d'un certain rapport à la parole et à la représentation politique, aux restes encore fumants, pourrait-on dire, de l'impérialisme français, mais que c'est aussi un thriller paranoïaque, un récit d'espionnage, une chronique, une comédie aussi, pourquoi pas, mais que tout cela se dissout, ou plutôt se fond, à la faveur d'une opération d'alchimie qui s'appellerait évidemment la mise en scène, dans une série de pure vision avec pour guide et ambassadeur l'élégant, l'imperturbable, le magnifique Benoît Magimel. En y repensant, je me suis fait une réflexion que je vous livre, mais dont je ne suis pas certain de saisir moi-même le sens. Je me suis dit que la plupart des cinéastes envisageaient le cinéma comme un gadget contemporain et que Serra et quelques autres l'envisageaient plutôt comme un art très ancien, antérieur à son mécanisme, à son dispositif technique. Ça n'a sans doute aucun sens. Mais venons-en à quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Nicolas, tu as écrit sur le film une critique à retrouver dans leur série spéciale Cannes des fiches du cinéma. À ce propos, ai-je informé l'armée de nos admirateurs que leur série en question était à retrouver gratuitement sur notre site, c'est donc chose faite. J'en cite un extrait de ta critique, donc. Si l'on considère que le cinéma, c'est être conduit sur des parcours où l'émotion et la pensée arrivent par des voies inattendues, être introduit dans des zones entre chien et loup, où l'extrême beauté distille une sourde inquiétude, où la drôlerie et la gravité sont mal dissociées, où ce qui se passe est aussi objectivement consistant que difficilement définissable, alors là, pas de doute, on est en plein dedans. Aux côtés de Benoît Magimel, donc Paoa Maagafanao, Matai Pambrin et Sergi Lopez, et c'est à découvrir en salle le 9 novembre. Je me tourne vers vous, vous êtes donc libre de vos propos. Mais commencez par m'expliquer en quoi il s'agit d'ores et déjà d'un des plus beaux films de la décennie. C'est à vous.
De l'histoire du cinéma.
De l'histoire du cinéma, pourquoi pas.
C'est une affaire entendue.
Moi qui suis peu porté sur les épiphanies, cette fois-ci je ne suis pas passé si loin. Donc c'est qu'il a dû se passer quelque chose sur l'écran. J'ai envie de me tourner vers Simon, parce que je sais que tu nous as envoyé tes cotes. Enfin, on fonctionne comme ça, avec des cotes pour noter les films. Enfin, ce n'est jamais qu'un préambule à la conversation, bien évidemment. C'est pas des notes de patinage artistique. Et j'ai vu que tu l'avais coté à 4 étoiles. J'en étais très heureux.
Mince, je voulais faire une blague. Je voulais dire que c'était le pire film que j'avais vu. alors, aussi, je vais rappeler le contexte de mon visionnage. C'était un jour où j'étais extrêmement épuisé. Je sortais d'une nuit blanche. Et n'étant pas du tout professionnel, je ne me renseigne jamais sur les films que je vais voir en projo. Je m'attendais à un film de science-fiction, pour être honnête. Ah. J'arrive, je découvre le dossier de presse, donc Albert Serra et la durée du film, et là je me suis dit, je suis très mal. Là vraiment, je suis vraiment très très mal.
Ouais, j'aurais le même feeling.
Et au terme de ces presque 3 heures de film, en fait, j'en suis ressorti. Je trouve que pour l'instant, c'est l'une des projections les plus mémorables que j'ai pu avoir cette année, et c'est probablement l'un des plus grands films de cette année, 2022. Je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit Nicolas dans sa très très belle fiche, mais oui, c'est un film qui se vit différemment des autres, notamment par son approche de l'espace et du temps, mais aussi par sa beauté visuelle. C'est que le film est traversé par des plans et des séquences qui sont...
Moi, en ce qui me concerne, dès le premier film, le travelling sur la côte, moi, c'était gagné. Oui. Hein. La première scène, pardon.
Et le premier film aussi, mais
c'est vrai que le film est baigné par une beauté visuelle, et il y a aussi une autre beauté visuelle qui vient aussi un peu en rupture. Moi, je pense aux scènes dans la discothèque, mais aussi cette scène complètement incroyable où Benoît Magimel est sur un jet ski et observe une compétition de surf. Je trouve que c'est un plan qui, en plus, arrive comme ça de manière complètement inattendue. Et c'est vrai que le film, du coup, il est parfois comme ça. C'est qu'il nous happe, il nous choque, il nous brusque. Et en même temps, après, il nous laisse un peu dans une sorte de torpeur. Et donc, il y a comme un le va-et-vient des vagues. Moi, j'ai trouvé ça assez fort en termes de réalisation, de manière de raconter sans trop abuser de dramaturgie, parce que c'est pas du tout un récit classique. D'ailleurs, je souhaite bon courage à la personne qui va résumer ce film.
C'est ce que nous signalait sous un post Facebook que j'avais fait pour annoncer l'émission, notre ami Jean-Baptiste Morel, que je salue. Bon courage à celui qui va se taper le résumé. Il boit des coups, il discute, il boit des coups.
Oui, c'est ça. C'est extrêmement compliqué. Et oui, moi, je je vais pas en dire plus, mais oui. Et je rappelle aussi que oui, Benoît Magimel est magistral dans un rôle qui est beaucoup plus complexe qu'il en a l'air.
Mais il est toujours magistral. Enfin, je veux dire, dernièrement, dans ses films, on se rend compte que c'est quand même le plus grand acteur français qu'on ait.
Je suis d'accord. Oui, ses derniers projets le confirment, oui. Oui.
Tu veux enchaîner, Marine ?
Non, parce que je ne l'ai pas vu, Pacifique.
ça m'a induit en erreur, là.
Je te l'ai dit juste avant. Ton petit laïus
sur Benoît Magimel, magnifique, encore
une
fois.
Oui, mais parce que c'est l'impression que j'ai, enfin, en tout cas, de tous les derniers films qu'il a fait dans ses choix, dans ses rôles. Enfin, moi, à chaque fois, s'il y a un acteur à sauver dans le film, ce sera toujours Benoît Magimel, hein, systématiquement, y compris dans des films pas forcément extraordinaires. Lui, il s'en sort toujours avec les honneurs. Et puis, bon, bah, il est reparti sans rien.
Oui, mais c'est le thème de l'émission. Tu es reparti sans rien, on parlera de toi.
C'est le salon des refusés.
Ça. Exactement, le salon des refusés. J'avais juste envie de faire une citation, parce que comme je suis un peu feignant, je fais des citations.
Citation de Gilles Deleuze, qui fait l'image temps, image mouvement.
Alors, moins que ça, mais quand même, hein, c'est une citation de Marie-Pauline Mollaret, sur le site Écran Noir, parlant du film. Alors, voilà, je prends la citation. Comme il l'explique lui-même, le réalisateur catalan tourne beaucoup. 540 heures de rush dans ce cas précis et garde uniquement ce qui lui plaît sans souci de cohérence. Tant pis pour la narration, explique-t-il. De toute façon, mon énergie ne se situe pas du côté de la dramaturgie. C'est toujours par hasard si celle-ci finit par apparaître. C'est cette méthode de travail particulière qui permet ce résultat hypnotique et flottant. Se succèdent alors, pour le résumer, des scènes qui valent toutes pour elles-mêmes, une conversation politique avec des représentants locaux, une soirée dans un cabaret local, un discours honorifique, et forment en même temps, entre elles, un spectre narratif captivant. Voilà, j'avais retenu et je m'étais dit, faut que je la cite ce matin, parce que quand le film a été présenté à Cannes et évoqué, moi j'étais, étant parisien, étant là, j'étais un peu sur le cul, j'étais... un petit peu impressionné, quoi. Je me suis dit,
Tu t'attendais à un film de science-fiction.
Mais oui, moi, comme Simon. Et en fait, quand t'as dit comme Simon, j'ai compris comme Simon. Ah. Et je me suis dit, mais il parle de Michel Simon. Qui, dans son édito de Positif, a dit que, bon, franchement, il y en avait marre qu'on porte au nu le film d'Albert Serra.
Voilà, j'allais dire que je pourrais payer cher pour savoir ce qu'a pensé le film Michel Simon. Et voilà, il ne l'a pas seulement pensé, il l'a écrit.
Voilà, et donc, voilà, ça, c'était la partie Michel Simon.
C'est ce qu'on peut lui reprocher
à chaque émission. et donc, non, c'est vrai que c'est un film... Alors, déstabilisant, déroutant, fascinant, hypnotisant. Il y a des moments où on se demande un peu où le film va. Mais surtout, je pense qu'effectivement, si on n'a pas envie de se laisser aller dans le film, on est très vite réfractaire en se disant « mais il ne se passe pas grand-chose ». Là, on a l'impression qu'il ne joue pas hyper bien. Parce que les scènes sont... Il le précise aussi, les scènes, elles ne sont pas forcément écrites côté dialogue, quoi. Donc, il y a des moments, ça accroche un peu, quoi. Mais ça accroche à la limite, comme va accrocher dans la première scène avec Benoît Magimel, où il voit les représentants locaux qui viennent lui livrer ses inquiétudes sur la reprise des essais nucléaires. Bah, il y a des moments, ça flotte, quoi. Et puis, il y a des moments, lui-même, en tant que diplomate, ne sait pas quoi dire. Essaye de reprendre des éléments de langage, de récupérer ce qu'il y a autour de lui. Voilà. Et en même temps, c'est un film fascinant. Enfin, c'est un film aussi fascinant sur le genre à travers ce personnage féminin. Masculin qui prend toute l'admiration de Benoît Magimel. Elle est fascinant à regarder, en fait, à l'écran. Je crois que c'est vraiment un film de fascination. Je dirais pas grand chose parce qu'en fait, je crois que je suis incapable d'en parler, juste de me laisser absorber par les images. Et comme a dit Simon aussi, voilà, c'est cette scène cette scène nautique avec les surfeurs, enfin c'est un moment quand la vague arrive la première fois, mais on a l'impression que la vague, c'est Okuzai avec cette vague qui va sortir de l'écran et qui va prendre toute la salle dans laquelle on est installé. Enfin, il y a une fascination incroyable et il y a trois dernières scènes comme ça d'un seul coup qui sont en suspens total. Et effectivement, c'est un film qui va demander au spectateur qu'il aille dedans. C'est curieux parce qu'à la fois il faut aller dedans et en même temps il faut se laisser aller. Donc c'est tout le paradoxe du film, à mon avis.
Nicolas, nous l'avons vu ensemble à Cannes. Nous sommes allés nous poser en terrasse de café. Nous nous sommes regardés et je pense que nous nous sommes dit que ce jour-là, à cet instant précis, il s'était passé quelque chose.
Indéniablement. Ben oui, mais c'est. C'est vrai que c'est difficile d'en parler autrement qu'en en additionnant des superlatifs, parce que c'est un film de quand même de pure fascination, et moi j'ai assez peu envie de théoriser sur ce qui fait que ça produit ça, c'est-à-dire que c'est ça produit un état, ce qui est quand même assez rare effectivement dans les films, c'est que ça met dans un état un peu
peut-être une forme de torpeur, comme le disait celui-là.
Oui, comme il est un peu ça, du coup on reprend des arguments qui sont un peu ce qu'on prend pour Apichat Pong vers Setakul, mais c'est quand même assez différent. Mais il y a un espèce de il y a un style qui est immédiatement saisissant, c'est-à-dire une espèce de mise en scène dont on se dit pas seulement waouh, c'est de la super mise en scène, c'est une espèce de ça crée une espèce d'hypersensibilité, je trouve, il y a dans le style de Serra, donne une perception différente. Et je pense que voilà, le but du jeu chez lui, c'est quand même d'essayer de nous amener à regarder des choses autrement. Et c'est sans doute pour ça qu'il a fait des films sur Don Quichotte, machin, Don Quichotte, les Rois Mages, le Louis XIV. Ces films, c'était une manière de les voir comme on les avait jamais vus. Et là, ce qui est intéressant dans celui-là, c'est qu'effectivement,
c'est la première fois qu'il s'ancre dans quelque chose qui relève du contemporain.
Il amène à regarder comme on l'a jamais vu un haut fonctionnaire d'État. C'est quand même l'inverse, et ça fonctionne. Totalement. C'est-à-dire que moi, il y a des scènes que je trouve totalement fascinantes qui relèvent de l'ordinaire, enfin d'un ordinaire un peu vulgaire. C'est-à-dire vraiment la scène d'hommage à un écrivain local, etc. C'est vraiment un sujet de reportage très. Très exact, je pense, très exact dans la manière dont se comportent les gens, dans le discours, mais avec une aura de mystère autour qui est proprement fascinante. Donc voilà, je sais pas comment la question, c'est comment donner envie aux gens de le voir et sans créer une déception.
Parce que s'agit du film le plus ouvertement narratif, le plus ouvertement dialogué, le plus ouvertement grand public d'Albert Serra.
Oui, parce que
il y a tout en rappelant qu'il s'agit néanmoins d'Albert Serra.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il y a quand même une dimension narrative. Hein. Il y a quand même un enjeu, une tension. Cette question de est-ce que les essais nucléaires vont reprendre est quand même crée quand même un fil rouge, des confrontations entre les personnages. On n'est pas dans une pure abstraction comme il a pu faire dans Liberté, qui était une horreur, ou dans d'autres films qui étaient bien, mais qui sont toujours quand même qui étaient tangents au niveau de la narration. Mais je sais pas. C'est sûr que c'est en tout cas c'est un pari à faire. Ouais, si ça vous ennuie, ça sera un pari perdu. Mais si ça vous ennuie pas, ça sera un enchantement. Donc,
et je vais juste dire un truc. J'en rigolais tout à l'heure sur la durée du film, mais je pense que c'est un
2h45, je pense.
2h45, exactement. Je trouve que c'est un faux débat de manière générale de questionner la durée d'un film. Enfin, de manière générale, bien sûr. Et je trouve que là, par contre, la durée du film, moi, je trouve, participe amplement à l'expérience qu'il proposait là. Je rigolais tout à l'heure, mais je veux juste dire que non, c'est un argument très fort du film, c'est que justement, c'est la durée.
On pourrait se dire que c'est tellement quand même sophistiqué et tout, c'est pas loin d'être de l'art contemporain, les films, etc. Sauf que ça nécessite et le grand écran et la durée, et donc le cinéma, quoi, et la salle.
Le cinéma, ça y sera donc en salle à partir du 9 novembre. On va changer de registre du tout au tout à présent. On va sortir un peu du contexte cannois, on va sortir de la pure fascination, on va sortir sans doute des chefs-d'œuvre, mais avec un film que j'ai plutôt aimé pour ma part, que je voulais mettre au programme pour introduire un petit peu de diversité dans le genre. Je vais donc parler de X de Ty West. Nous sommes en 1979, la petite équipe d'un tournage de film porno se rend au fin fond du Texas pour louer la grange d'un couple de personnes âgées. Quelque part entre hommage au slasher et clin d'œil à Délivrance, le film rejoue l'opposition contre culture et libération des mœurs contre valeurs de l'Amérique dite profonde, en l'additionnant de ce qu'on pourrait appeler, en usant d'un doux euphémisme, un conflit générationnel. Au casting notamment Mia Goth, vue dans Nymphomaniac volume 2 et A Cure for Life, Kid Cudi, rappeur et acteur de son état, et qui par ailleurs produit le film avec Scott Levinson, et Jenna Ortega, Scream Queen 3.0 ou 4.0, elle était à l'affiche de Scream 5, de Babysitter Killer Queen, et elle interprétera Mercredi Adams dans la série réalisée par Tim Burton, disponible très prochainement sur Netflix. Ne la regardez pas, il n'y a rien à en attendre à mon avis. Je précise que X, que vous pourrez découvrir en salle à partir du 2 novembre, et oui, c'est bien parce qu'en plus je dis ça alors qu'il est au Festival Lumière, donc je vais encore bien me faire voir de Thierry Frémaux. Je précise que X, que vous pourrez découvrir en salle à partir du 2 novembre, et le premier volet d'une trilogie, le deuxième, Pearl, mettant en scène toujours Mia Goth, et qui, si j'ai bien compris, est le préquel du premier, est d'ores et déjà tourné. Pour ma part, j'ai trouvé ça plutôt réjouissant. Et pour vous, qu'en est-il, Marine?
Ah oui, mais alors quelle idée de faire sortir ce genre de film après Halloween, ça je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est une comédie horrifique. Alors, je pense que c'est pas des films porno qui font, c'est des films érotiques.
Je pense que ce que nous en montrent les images, je pense que c'est érotique, mais
j'ai le sentiment que c'est un film américain dans lequel il ne faut pas montrer trop de choses.
Le film ne le montre pas, évidemment, il ne voulait pas risquer l'interdiction au moins de 18, mais...
Non, mais ils ont une interdiction au moins de 16, je crois, ce qui est quand même déjà assez violent, je trouve, pour un film comme ça, parce que finalement, bon...
C'est assez étonnant, par ailleurs, oui.
C'est un film d'horreur... relativement classique, hein, mais c'est vrai que le petit côté reconstitution fin des années 70 dans cette Amérique profonde, ça marche toujours. C'est assez efficace. Ça dure 1h45, hein, donc une heure de moins que Albert Serra.
C'est pas la même ambiance en plus.
J'espère que tu as d'autres arguments à invoquer.
C'est aussi un film qui serait reparti sans rien de Cannes, probablement. Au Grand Salon des Refusés. Non, c'est un film assez réjouissant. C'est un film un peu pop-corn, hein, évidemment. Qui ne va pas réinventer des choses dans le cinéma ou quoi que ce soit, mais qui fait bien le métier et qui, je trouve, construit une galerie de personnages assez marrante en partant du principe que la sexualité, c'est pour les jeunes. Et que bon, bah, les vieux, ils n'ont rien à faire dans le Schmilblick, etc. Ce que va renverser un petit peu le scénario au fur et à mesure. C'est ça qui est un peu étonnant. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que les scènes les pires, ce n'est pas les scènes où les gens se prennent des trucs dans les... Enfin,
bon, moi, j'ai détourné les yeux. Je sais que Francis, il me l'a confié au début de l'émission, a détourné les yeux aussi, à un moment donné.
Oui, quelques scènes un petit peu violentes.
Disons que c'est vite fait.
Je trouve que la pire, c'est quand la vieille caresse la jeune à la fin. C'est vraiment ce qu'il y a de pire dans le film. Et ça interroge quand même un peu la manière dont on conçoit même
en la maculant de sang aussi, parce qu'elle n'a pas les mains très très propres.
Ça, à la fin, ils sont tous un petit peu en sang quand même. Ça reste un slasher.
Un hommage au slasher.
Voilà, mais donc ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a une petite réflexion comme ça sur... est-ce qu'on est, quand on est vieux, on a encore le droit d'avoir une sexualité? Voilà. C'est un petit peu le seul truc.
Simon, Francis, vous avez vu le film? Francis, je sais que tu es un grand admirateur de Mia Goth, notamment.
Déjà, et d'une, c'est pour ça que j'étais intéressé, puis que j'avais raté le film. Et puis, donc, quand tu nous en as parlé, je me suis dit, bah, c'est super, ça va être l'occasion de récupérer le film. Pour répondre à ce que tu disais, Marine, en fait... c'est un film porno qu'ils font, mais le RJ, le personnage du cinéaste, le jeune cinéaste, lui, en fait, veut en faire un film expérimental. Et c'est très drôle parce qu'il y a une réflexion des films.
Un film français, voilà.
Ouais, c'est ça.
Il se pose vraiment comme un cinéaste.
Lui se pose comme un cinéaste. Alors après, le film ne nous montre pas effectivement un film porno parce que bah, c'est un film américain, donc si on montrait tout, ce n'est pas des acteurs français qui jouent, mince.
Les films du fermier, ça s'appelle.
Voilà, c'est pas grave si on ne comprend pas complètement ce que ça raconte, et si c'est un peu arty, ça, au pire, ça ressemblera à un film français.
C'est ça, et c'est très drôle. Ce qui est amusant dans le film, il y a deux choses. Il y a ces références comme ça au cinéma, moi, qui je trouve sont super amusantes, parce qu'elles sont amenées intelligemment. Donc il y a ce petit clin d'œil, donc on est en 1979 au cinéma français, la nouvelle vague, machin. Et puis plus loin, on parle d'Hitchcock parce qu'on a un problème, ce scénario n'est pas cohérent, le scénario du film porno. Mais oui, mais rappelle-toi, Psychose non plus, c'est pas cohérent. Et c'est très drôle parce que donc il y a ça, donc on a des moments comme ça où on est en école de cinéma, quoi. C'est pas parce qu'on fait du porno qu'on peut pas réfléchir à ce qu'on fait. Et puis que le film d'un seul coup va citer une scène référence de Psychose. J'en dis pas plus. Et que là, comme on est spectateur avec même pas beaucoup, mais un petit peu de culture cinéphile, on dit ah putain, il va se passer quelque chose dans cette scène, forcément, quoi. Je n'en dirai pas plus. Après, ce que j'aime bien, et c'était très drôle, cette petite remarque autour d'Albert Serra, ça fait une heure de moins. Mais moi, ce que j'aime, c'est que justement, je trouve que le film prend énormément son temps.
Pour s'installer dans son paysage, dans son décor, pour installer ses personnages.
Mais complètement. Et le slasher pur, en fait, c'est la dernière demi-heure du film, en gros, quoi. Et c'est assez hallucinant de voir. Parce qu'évidemment, il y a un truc très intelligent en termes d'écriture scénaristique, c'est qu'on implante la chose au début avec des flics qui vont découvrir ce qui s'est passé. Et qu'après, flashback, le flashback, c'est juste 24 heures avant. Au début, je me suis dit, putain, ça va être court pour tout mettre en 24 heures. Ben non, finalement. Et en plus, ça fait une bonne heure de film où ça s'installe, comme ça, tranquillement. On découvre tous les personnages, machin. Et je trouve que c'est un petit peu la réussite à laquelle je ne m'attendais pas du film. Et puis après, bah, ce que disait effectivement Marine, que je rejoins aussi, c'est qu'il y a cette réflexion sur, finalement, sur le désir. Comment ça s'exprime ? Est-ce qu'on peut l'exprimer même quand on ne peut plus l'assouvir en vieillissant, avec, c'est une réflexion sur l'âge que je trouve aussi assez passionnante, et que le film, en dehors de son aspect slasher, qui sur les deux premiers meurtres peut vous faire effectivement vous mettre la main devant les yeux,
ce qu'aurait dû faire l'un des personnages.
Exactement, on ne le répétera jamais assez. Quand vous voyez à l'écran comme ça un œilleton en gros plan, faites gaffe et mettez pas votre tête
dans une paillasse de la taille des yeux et à distance. Oui, enfin,
ne mettez pas votre œil derrière.
Les poignées de porte, attention.
Et c'est sans doute une réflexion sur la pulsion scopique inhérente à la condition de spectateur de cinéma.
Et tout à fait, je pense bien sûr. Et voilà, il y a cet aspect-là, et en même temps, le film est très troublant sur l'expression du désir, et les scènes, la scène que tu mentionnais, effectivement, où la vieille femme, comme ça, vient caresser une des actrices, quoi, dans son demi-sommeil. C'est vrai que c'est une scène incroyablement troublante aussi, quoi. Donc je trouve le film, en fait, vachement intelligent, plus qu'il en a l'air, quoi.
Simon.
Ah, ça, je suis complètement d'accord avec la dernière phrase de Francis. C'est très fun, c'est très léger, mais c'est aussi bien fait, c'est aussi malin, même dans les références, parce que le film est quand même très référencé. Le Massacre à la tronçonneuse est quand même l'une des principales références du film, mais pas la seule. Il y a aussi un autre film de Tobe Hooper qui cite, c'est le Crocodile de la mort, que je trouve ça assez amusant, enfin, que j'ai trouvé assez amusant comme
très très belle scène avec
comme référence.
Un crocodile, mais l'alligator plus précisément. Mais...
Et oui, on sent qu'il maîtrise son sujet, qu'il a aussi beaucoup d'affection pour le genre du slasher. Et effectivement, il est question de sexualité et il questionne la sexualité dans son film, mais aussi, je pense, dans le genre même qu'est le slasher, parce que les scènes de sexe font partie pendant les années 70, 80 et 90, et ont été quand même. On fait partie de l'ADN des slashers, et je trouve ça assez amusant qu'il propose une construction différente ici. Il y a aussi ce message un peu politique, social, notamment sur cette haine des vieux pour les jeunes, mais spécifiquement pour les jeunes de cette génération de la fin des années 70 et du début des années 80. Donc il y a aussi une opposition générationnelle qui est assez amusante derrière cette violence. Non, j'ai trouvé ça très amusant, assez malin, et puis j'ai eu l'occasion du coup de me plonger dans sa filmographie à lui et ses précédents films, dont The House of the Devil qui revisitait un peu le film de sataniste de possession, est aussi extrêmement intéressant et construit aussi de la même manière, c'est-à-dire une heure où il y a une progression crescendo et les 20 dernières minutes où tout explose, et c'est assez malin, je trouve ça assez réussi.
Je suis content, on partage de l'enthousiasme aujourd'hui. Francis, tu voulais
juste rajouter un truc, parce que effectivement, en entendant Simon, j'y ai pensé, on peut aussi dire que justement le face-à-face dans le film, c'est entre et c'est les deux axes peut-être de la culture américaine, culture avec des guillemets, hein, c'est le porno face au puritanisme, quoi.
Oui.
Oui, alors surtout à cette période de libération sexuelle
avec une citation de scène de télévangélisme voilà, qui ouvre et referme le film.
Qui rythme même le film.
Qui rythme le film, absolument, oui. Il y a tout aussi, un travail sur le montage là-dessus que je trouve assez passionnant.
Et là aussi, il y a des vaches qui meurent. Enfin,
et là aussi, il y a des vaches qui meurent.
Effectivement, c'est, ah, la, oui, première, c'est la première entrée en matière, c'est une vache écrasée sur la route.
Et... Ouais, ouais. C'est pas très ragoûtant. X, que nous vous recommandons donc, est à découvrir en salle à compter du 2 novembre. Je vous propose à présent une nouvelle pause musicale en compagnie de Blood Orange, nom de scène de Devante Hines, aussi doué lorsqu'il travaille à son propre compte que lorsqu'il se met au service des autres. On lui donne notamment deux de mes singles préférés des années 2010, Losing You de Solange et Everything is Embarrassing de Sky Ferreira. Il est revenu récemment, je vois Simon qui se marre, il est revenu récemment avec un EP 4 titres, oui j'aime la pop cheesy Simon, dont nous écoutons un extrait, comme souvent c'est une petite leçon de mélancolie qui nous est administrée, et on se retrouve tout de suite après. De retour sur les ondes de Radio Libertaire 89.4, vous écoutez toujours longtemps. Je me suis couché de bonne heure, Thomas Feu au micro, en compagnie de Francis Gavel et de la rédaction des Fiches du Cinéma, Simon Haro, Nicolas Marcadet, Marine Quinchon, et à l'instant, nous écoutions Jesus Freak Lighter de Blood Orange. Retour à Cannes pour la suite de notre tour d'horizon de l'actualité en salle avec le nouveau film de Christian Mungiu, palmé en 2007 avec 4 mois, 3 semaines, 2 jours, et qui nous revient donc avec RMN. En quelques mots, le sujet, Mathias, ouvrier roumain qui travaillait en Allemagne, retourne dans son village de Transylvanie, où il retrouve sa femme et son fils, et où la grande entreprise locale engage des ouvriers étrangers. Bientôt, la population en question va se liguer contre ces derniers, cependant que Mathias, lui, va renouer avec son ancienne maîtresse. Petite citation, le talent de Mungiu s'exprime dans toute sa splendeur, écrit Michael Ganem dans sa critique parue ce mois-ci dans les Fiches. La chronique rurale à l'heure de l'européanisation vire à la bataille rangée sur fond de haine de l'autre. Une critique qui est également à retrouver, sachez-le, innombrable peuple de nos fans, dans notre hors-série spéciale Cannes à télécharger gratuitement, bien évidemment, sur notre site. Au casting, on retrouve Marine Grigoré et Judith Staté, pardon, entre autres.
Enfin.
Depuis le temps qu'on les attendait, ouais. Et le film est d'ores et déjà en salle. Nicolas, je me tourne vers toi.
Oh, carrément.
Fais le malin.
Nous avons évoqué le film en réunion et je crois me souvenir que sans nier en rien le talent de Mungiu, tu étais quelque peu réservé.
Ah bah oui, 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 mais bon, d'accord, on fait dans cet ordre-là.
Si tu veux, tu peux.
Non, non, mais cela dit, c'est bien parce que moi, j'ai pas, du coup, j'ai pas grand-chose à en dire. Et le film vaut sans doute mieux que ce que je peux en dire. C'est-à-dire que moi, je me suis un peu, je me suis braqué contre lui pour, mais quand même pour une raison que je revendique. Moi, je trouve que c'est un film qui parle un langage cinématographique extrêmement daté. Je trouve que cette espèce de manière de jouer sur le plan séquence, l'ellipse, la fin de scène assez cut pour faire un espèce de constat social. C'est un langage que j'ai trouvé extrêmement familier, donc extrêmement ronronnant, qui m'a installé, voilà, le film dans un espèce de ronron auteur et pas dans un truc et pas dans le propos du film, pas dans le propos social. Je pense que cette manière de faire qui était, qui est en gros l'axe d'Ardenne à Nequeu, ça a dû quand même correspondre à quelque chose, à un état de la société. Ça c'était des moyens qui ont été trouvés à un moment pour traduire une espèce de violence froide de la société. Enfin, bon, je sais pas, faudrait se pencher dans le détail sur ce que ça représentait, mais ça représentait quelque chose quand ces films sont arrivés. Là, si la société bouge, alors avec des choses évidemment en commun, mais si le constat social est traité avec les mêmes outils toujours, mais ce qu'est le problème d'Anne et des Dardenne aussi dans leur film, c'est-à-dire que ça, pour moi, ça ne marche plus parce que ça essaie de dire des choses différentes avec les mêmes outils. Moi, je trouve que je suis pas voilà, pour forcément qu'il y ait de la nouveauté à tout prix, tout le temps, qu'on renouvelle les formes en permanence, mais je pense que dans ce type de cinéma là qui essaie de traduire quelque chose du social, si on n'invente pas le langage qui va avec la situation qu'on décrit, il y a un effet qui se perd, quoi. Pour moi, voilà. Du coup, il y a une espèce d'anesthésie, moi, face à ce truc. Je me dis, oh, oui, c'est vrai, c'est dur, la société, le racisme, le machin. Enfin, je vois, il y a des choses, ce que vous allez dire de positif. Moi, globalement, j'y souscris. Il y a des choses très intéressantes. Puis, c'est effectivement bien mis en scène. Mais pour moi, ça ne percute pas. Parce que c'est dans cette espèce de machin, avec l'inévitable fin, je dis ça, je dis rien, mais je te laisse réfléchir. Je suis dans des pantoufles, dans un truc qui devrait au contraire me sortir de mes pantoufles et me bousculer. Voilà, bousculer, ma même manière de regarder les choses, les problèmes, tout. C'est à peu près tout. Mais moi, j'ai effectivement pas tellement dépassé ce stade. Au bout d'un moment, il m'a agacé, ce film. Donc, voilà.
Alors, où on en est autour de la table, autour de ce film, par ailleurs?
Alors, moi, je comprends très bien ce que veut dire Nicolas. Et moi, justement, en fait, c'est ma zone de confort, quoi, pour voir un film. C'est-à-dire, le plan séquence, j'adore ça. Le cinéma roumain, j'adore ça. Donc, un film de Mounjou, je pars, ça me va. Je sais déjà que je vais... Je sais déjà avant d'y aller que je vais être dans un confort de... Parce qu'il sait mettre en scène, parce que à aucun moment je vais me dire « Oh là là, bon... »
Est-ce que tu en attends ou est-ce que tu en espères davantage qu'un travail sérieux, disons?
Alors après, je suis toujours un peu forcément dans l'attente de ce qu'il va pouvoir me dire de nouveau sur la société roumaine, qui est quand même un peu son cheval de bataille. Hein. C'est quand même à chaque fois une radioscopie de son pays par un prisme toujours différent. La RMN, ça veut dire IRM en roumain. Donc c'est carrément littéralement une radioscopie de la société roumaine. Et en fait, j'ai trouvé ça au fur et à mesure de plus en plus. Au début, effectivement, j'ai trouvé que c'était très classique, l'histoire. Et puis en fait, petit à petit, au fur et à mesure que se rajoutaient tous ces personnages, toutes ces nationalités, parce que c'est un bled de 200 personnes où ils parlent 6 langues, hein, quand même, entre les ouvrières ramenées du Bangladesh, le français, les hongrois, etc. Enfin, c'est un bordel assez étonnant qui... alors, après, moi, pour moi, c'est une... Je suis un petit peu dans le 90% du plaisir du spectateur et dans la reconnaissance, quoi, dans ce genre de film. Et c'est vrai que ce moment une espèce de tribunal populaire à un moment où ils sont dans une dans la salle du village en train de se disputer, de gueuler, etc. Pour moi, c'est un pur plaisir de spectatrice. Je trouve que là, bah, c'est le talent, quoi. C'est d'arriver à mettre en scène ce genre de séquence chorale qui dure longtemps, où on est complètement pris dedans, etc. Et je me suis ennuyée à aucun moment. Je comprends les réserves de Nicolas, mais moi, c'est quelque chose dans lequel je me... Le fait d'être dans une... dans ce confort, entre guillemets, par rapport à la mise en scène, d'être dans quelque chose de connu, même si tu peux dire que c'est Saut 2010 ou... ça me permet de mieux apprécier aussi derrière
Saut 2005.
Ce qu'il veut vraiment dire, quoi. Ce qu'il veut raconter derrière, ce qu'il peut avoir de nouveau à dire, et donc ça, j'ai l'impression d'avoir quand même compris. Voilà.
Simon, Francis.
Comme il va falloir y aller avec quand même beaucoup d'arguments, ça va être compliqué. Donc je vais m'en référer à une phrase ici prononcée il y a quelques émissions par un certain Clément de Léchaud. Alors je la cite pas complètement bien, mais ça voulait dire ça, hein, que le cinéma en fait c'est comme une coupe du monde et à la fin c'est la Roumanie qui gagne. Alors, voilà, et en fait il en parlait effectivement en évoquant le film de Radu Joudé, Bat Look Banging on Looney Porn, où là aussi on avait cette espèce de radioscopie comme ça de la société roumaine avec un conflit et justement là aussi une très grande scène de déballage entre différents intervenants.
Pour le coup, là, avec une proposition formelle un petit peu plus rock'n'roll quand même.
Ah, je te dis pas le contraire, ouais. Par rapport à ça, mais dans la troisième partie du film, c'est aussi comme il y a dans le film de Mongeau, avec cette scène que moi effectivement je trouve aussi très brillante, alors peut-être So 70s ou je ne sais quoi, mais 90s.
Vous êtes en train de vous perdre dans les couloirs du temps, là, je ne sais plus du tout de quel cinéma vous parlez.
Mais non, mais comme ça, où d'un seul coup il y a une confrontation entre toutes les couches qui sont... soit donc dans le film de Joudé, c'est dans cette école, là ici dans cette petite ville de Transylvanie, où en plus il y a des communautés effectivement très différentes et d'un seul coup ça pointe, alors quand on connaît pas bien, moi le but du film par exemple j'étais complètement paumé, parce que ça pointe comme ça tous les agrégats de civilisation ethnique de la Roumanie. Et pourquoi je dis que j'étais complètement paumé, parce qu'effectivement je comprenais pas, donc le voyant en version originale sous titré, pourquoi il y avait des sous-titres qui étaient roses et puis d'autres fois d'autres qui étaient jaunes et puis blancs, et il m'a fallu un temps pour réussir à comprendre en écoutant d'un seul coup le film qu'ils parlaient pas tous roumains, quoi. Comme j'avais l'habitude d'entendre du roumain dans les films roumains, quoi. Il y avait de l'allemand, il y avait du hongrois, sans parler après effectivement des bengalis, du français qui est là, et puis de la, et puis.
Tu reconnaissais quand même quand les gens parlaient français.
quand ils parlaient français, je le reconnaissais bien, oui. Et puis l'anglais, évidemment, pour se comprendre aussi par
moment. Sinon, il est temps de passer une IRM. Hein.
Mais justement, je te rassure, peut-être pas encore. Et donc, c'est vrai que peut-être j'ai. Je suis rentré dans le film parce que au point de départ, je savais pas du tout de quoi il allait parler.
Tu pensais que c'était un film de science-fiction.
Mais moi aussi, ouais, voilà, comme pacifiction, quoi. Et je savais pas de quoi il allait parler. Et donc, effectivement, au début, je me suis dit, bah voilà, alors ça va être le portrait d'une petite ville. Il y a des problèmes de sociaux, le monde du travail, tout ça, machin. Et donc, je me suis laissé petit à petit porter. Et en fait, c'est toutes ces petites notations, moi, qui ont fini par m'intéresser dans le film. C'est peut-être pas le mouvement d'ensemble, que, en plus, j'ai pas anticipé. Peut-être que je suis un spectateur très neutre, j'ai pas anticipé ce qui allait arriver comme, évidemment, problématique raciste. Et que c'était comment, même dans une petite ville en Transylvanie, finalement, la modernité sous toutes ses formes finit par arriver, y compris par exemple, bah voilà, un groupe de chasseurs, il y en a un qui est plus jeune et on sert de l'alcool parce qu'il faut, on est viril et on va boire de l'alcool avant de partir à la chasse, et lui dit, mais je bois pas. Des petits trucs comme ça qui d'un seul coup m'arrêtent, m'interpellent, ou ce personnage principal qui a une conception. De la virilité assez machiste, et c'est pas un jugement de ma part, il est dans une éducation de ce genre-là, c'est pas un jugement par rapport à lui, parce que finalement c'est un personnage que je trouve assez, assez attachant, parce qu'il est toujours décalé, et qu'il a une réaction machiste, et puis
il va essayer de la tempérer parce que on lui fait remarquer que peut-être il a été trop loin ou lui-même se le fait remarquer, ce qui est intéressant parce que finalement c'est un personnage qui un petit peu comme ça est toujours en questionnement sur lui-même et ça j'avoue que c'est des tas de petites choses comme ça qui m'ont intéressé dans le film et qui ont fait que je me suis laissé porter par le film et cette fameuse scène puisqu'on va quand même en parler de fameuse scène qu'on l'aime ou pas de ce débat dans la salle des fêtes avec ce cadre fixe placé au tout début des premiers rangs et qui va jusqu'au fond où d'un seul coup il y a des interventions pendant à peu près 20-25 minutes. Ce qui est passionnant là-dedans, c'est qu'on se dit il y a des communautés clivées et qu'on se rend compte à l'intérieur de ça, autour d'un problème raciste, qu'il y a des gens qui sont plus racistes que d'autres et que en fait, au bout d'un moment, ils sont tous pareils parce qu'il y a toujours un endroit où ils vont dire une connerie. Et que tout va rejaillir à un moment ou à un autre. Et je trouve, à ce niveau-là, en termes moi, d'écriture, là, par contre, de scénario, je serais d'accord si on me disait c'est du théâtre. Donc, en tant qu'écriture théâtrale, de dramaturgie d'une scène théâtrale, je trouve que c'est brillant parce que tout apparaît. Mmh. Comme ça, avec des petites notations.
Simon, en quelques mots peut-être, parce que je voudrais qu'on ait l'opportunité et le temps de parler du dernier film de notre programme.
Oui, je comprends tout à fait les réserves de Nicolas, mais c'est vrai que j'ai un peu envie de le défendre. En même temps, Christian Mungiu fait du Christian Mungiu. C'est-à-dire, quand on va voir le film, on sait que voilà, on va pas se bidonner quoi, devant ce film.
C'est ce qu'on appelle l'humour à froid.
Et effectivement, le récit est dense, et en même temps, comme dit Francis, tout est clair, tout est très bien dessiné. Et c'est peut-être ça aussi peut-être qu'on peut lui reprocher, c'est que les lignes sont très très visibles dans ce film. On sait très bien à peu près vers où ça va se profiler, comment ça va se terminer. C'est assez prévisible, mais je trouve que c'est fait quand même avec une maîtrise qui quand même force un peu le respect et l'admiration. La seule réserve que j'ai, moi, c'est la conclusion. J'aime pas du tout cette manière qu'il a fait de conclure, qui est beaucoup trop vaste.
RMN de Christian Mungiu, c'est donc d'ores et déjà en salle.
Qui serait fini dans un trou rempli de cailloux, 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 cailloux.
Nous en venons donc au dernier film de notre table ronde dont nous venons d'écouter un extrait de la bande originale. Jackie Caillou, c'est le premier long-métrage de Julien Delangle, présenté cette année à Cannes au sein de la sélection de l'Acide. Un film qui croit au miracle ou qui du moins espère en lui, quoi de plus cinématographique. En quelques mots, nous sommes dans les Alpes. Un jeune homme, Jackie, vit avec sa grand-mère, magnétiseuse reconnue des environs. Un jour, celle-ci décède. A-t-elle transmis son don à Jackie? Saura-t-il en user pour guérir cette jeune femme sur le dos de laquelle se répand une tache étrange? C'est avec Thomas Parigi, Lou Lampros, Edwige Blondio et Jean-Louis Coulloc. Et c'est en salle le 2 novembre. J'ai envie de me tourner vers toi, Francis.
Oui, parce que j'ai un peu dit, ça serait bien qu'on évoque le film et tout. Alors,
par ailleurs, je fais ce que je veux.
Oui, voilà, c'est ça. Mais donc, je me suis dit, tiens, allez.
Pas ton prolétaire non plus.
Un film français, un premier film français. Je plaisante. Allons-y.
Oui, mais tu as eu tout à fait raison d'insister pour qu'on le mette au programme. C'est un
comme
un
on a des cinéastes reconnus présents, quoi. Ouais, on va peut-être essayer, voilà. Et puis parce que oui, j'y suis un peu allé comme ça, en me disant, tiens, j'en entends parler à droite à gauche. Bon, je vais peut-être quand même me rendre compte de ce que c'est. Et moi, je trouve que ce qu'il a de réussi, et à la fin, j'offrirai à Nicolas, qui n'a pas vu le film, j'offrirai parce que je sais qu'il aime mes comptes rendus aux attachés de presse, je ne le lirai pas parce qu'il est assez long. Mais je trouve que c'est un film qui met en éveil ou aux aguets tous les sens, les cinq sens pour moi. Évidemment, le toucher avec cette grand-mère magnétiseuse qui transmet ce don, qui s'exprime maladroitement, mais le toucher aussi parce que comme elle se moque de son petit-fils, ben Jackie n'a jamais touché une fille. Donc il y a ça, il y a Louis parce que bon ben là effectivement il est comme le déplore souvent Nicolas Marcadet dans ces très brillants articles, le bilan 2021 du cinéma où il dit de toute façon à un moment désormais l'inévitable scène d'autoradio. Donc là c'est pas un autoradio, c'est juste un magnétocassette.
Ah ben ça marche aussi. Hein.
Ça marche aussi. Hein. Et donc ben évidemment il est musicien avant de devenir magnétiseur et donc il écoute des sons de casque, il enregistre les sons de son environnement, mais ce qui lui permet peut-être aussi d'être à l'écoute d'Elsa, même s'il n'est pas à l'écoute par le toucher, mais à l'écoute d'Elsa quand elle va peut-être subir une certaine transformation. La vue, pour moi aussi, qui a un sens qui est mis en avant, que ça soit la plus petite occurrence, c'est-à-dire regarder par un... Et là, il prend pas un pic dans l'œil, mais regarder à travers un œilleton. Voilà, un trou de la serrure, comme aussi, bah, effectivement, le plus grand angle avec les paysages de montagne et de forêt, où on discerne rien, à contrario. Et en même temps, la vue, pour moi, c'est aussi bah, le regard de la caméra, et ce que j'ai trouvé assez intéressant dans le film, c'est que chacun, à un moment ou à un autre, que ce soit un personnage principal ou un figurant, bénéficie du regard de la caméra. Et il y a ces moments où la caméra s'arrête sur les gens qui sont comme ça dans la salle d'attente ou à l'hôpital où il va y avoir d'un seul coup un miracle. Voilà, et puis après, bah, évidemment, l'odorat avec cet appel de la forêt, la présence comme ça très forte des odeurs, en tout cas. Et puis, bah, l'odorat, ça permet pour moi d'aller jusqu'au goût, et le goût, c'est bah, celui du sang, ici. C'est-à-dire le sang des moutons qui vont être égorgés, on va découvrir que... Mais comme le sang aussi de ce foie cru qu'ingère, justement, voilà, là, on peut faire un parallèle avec X de Ty West, ce foie cru qu'ingère le personnage de Jackie Caillou, pour essayer justement de retrouver, comme sa grand-mère en tant que magnétiseuse, ce flux du sang. Il a besoin de se reconstituer son propre flux avec un apport de sang extérieur pour à nouveau réguler les flux des personnes malades, que ce soit psychique ou psychosomatique. Voilà, donc pour moi, il y a tout ça dans le film, et en même temps, j'ai pas pu m'empêcher, en voyant le film, de penser bah, justement à cet article que je cite de Nicolas, qui était son bilan 2021, disant pourquoi ces premiers films français, qui sont pas dénués de talent du tout, mais finissent par tous se ressembler. Est-ce que c'est parce qu'on passe en commission avec un scénario et qu'il faut apporter dans ce scénario un élément d'étrangeté ou de dépaysement? Et là, le dépaysement, bah, ce serait le fait d'être magnétiseur. Qu'est-ce que c'est? On en a peu vu, donc pourquoi pas. Bah, tout en pensant à ça, parce que j'ai pas pu m'empêcher pendant toute la projection d'y penser, en même temps, moi, c'est un film voilà, qui est arrivé jusqu'à moi, et je me suis dit, ça serait dommage qu'on puisse pas en parler, l'évoquer.
Ce n'est plus un film, c'est un tapis d'éveil. Tu as bien fait de le mettre au programme. Moi, je trouve que le film est très joli, effectivement. En quelques mots, je me tourne vers Simon et Marine.
Oui, effectivement. Moi, j'ai découvert très très tôt ce matin, et donc du coup, c'est encore un peu chaud dans.
Ce qui est bien, c'est qu'on va tout savoir de tes habitudes de spectateur.
Oui, je tiens à partager mes expériences.
Non, mais tu as raison. Et côté Gonzo.
C'est vrai que quand on prend le film un peu loin, c'est voilà, le film s'inscrit dans une tendance assez récente de revisiter, se réapproprier du monde rural et de ses habitants. J'ai pensé un peu aux météorites de Romain Laguna, ou aussi encore Rester vivant d'Alain Guiraudy. Donc c'est vrai que le film évoque pas mal de références, sans les citer pour autant, attention. Et on pourrait peut-être voilà, reprocher cette tendance un peu facile, mais effectivement, le film fait pas mal pas mal de pas de côté, notamment sur, autour du magnétisme. Ce protagoniste qui est assez fascinant et qui est très très bien interprété d'ailleurs, et aussi par une rupture de ton, c'est-à-dire que le film fait une rupture de ton en cours de route beaucoup plus dramatique, beaucoup plus sombre, donc j'ai trouvé ça assez charmant, je vais pas en dire plus, mais plutôt réussi.
Marine.
Oui, je rejoins Francis sur le fait que c'est ça fait partie de tous ces premiers films. Alors, tu parles des premiers films français. Moi, je mettrais aussi les premiers films espagnols dans l'eau. C'est-à-dire ces histoires qui se passent un petit peu dans la ruralité, avec pas forcément des magnétiseurs, mais souvent, en général, c'est un peu des sorciers, des sorcières. Enfin, quelque chose, il y a un truc un peu héréditaire, où il y a eu une histoire de vaudou dans la famille, et puis la petite fille se retrouve avec des pouvoirs. Bon, là, il y a un peu ce côté-là, mais c'est quand même mieux amené, je trouve, que dans pas mal de films que j'ai pu voir, notamment à la Caserne des réalisateurs cette année. Et alors, on va retrouver tout un ensemble de choses qui sont très symptomatiques des premiers films, avec beaucoup de rôles qui sont interprétés par des personnages dont ce n'est pas la profession, n'est-ce pas, d'être acteur. Mais ce qui est super, c'est que les premiers rôles, en tout cas, la grand-mère est quand même très présente dans un premier temps. Et elle a une densité, un truc qui ancre, je trouve, tout de suite le film dans son territoire, dans cette forêt, dans ce village, etc. Parce que lui est un peu plus perdu, hein. Il est plus jeune, il ne sait pas exactement ce qu'il va faire de sa vie, en fait. Hein. On le comprend, il est un peu paumé. Et ça ancre le truc, et donc ça fait que la deuxième partie, qui est un petit peu mystérieuse, un petit peu étrange, l'est d'autant plus, enfin, je trouve. Et par rapport à la musique, en fait, c'est le film, la musique qu'il fait, ça m'a fait penser à cette machine où on passe la main près de l'antenne et ça fait des vibrations, des bruits, des ondes. Et je trouve qu'il y avait quelque chose comme ça dans le, quand tu parles du toucher, en fait, du magnétisme, il y a cette espèce d'idée de l'onde, quoi, de truc.
Bah, c'est l'idée du thérémine, voilà. Et des instruments de ce genre-là, quoi.
Voilà, exactement. Et puis, effectivement, cette thématique un peu des fluides, c'est-à-dire que quand il va agir comme magnétiseur, après il doit se purger en se collant contre les arbres, après il doit manger du foie cru, enfin une espèce quand même de... On sent que ça ne s'improvise pas complètement, que c'est un métier, hein. Voilà, ça se travaille, il y a du boulot, et donc... Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont fait appel à des magnétiseurs récemment, mais c'est intéressant.
Très bien, c'est donc en salle à partir du 2 novembre. Très rapidement, les coups de cœur de nos rédacteurs. Que voudriez-vous partager avec celles et ceux qui nous écoutent? Un conseil de pop exigeante pour crâner dans les soirées, une destination de vacances pour la Toussaint, et pourquoi pas un film, puisque vous aimez tant ça, bande de pervers. Simon, je sais que tu es venu avec un petit quelque chose dans ta besace.
Oui, alors c'est pas un film ni une lecture, j'ai pas de proposition à ce niveau-là, mais c'est plus une idée d'expo, une expo gratuite dans la galerie du Paris Cinéma Club, qui organise une petite expo consacrée au Pinocchio de Guillermo del Toro. C'est gratuit, c'est réussi, c'est joli, et puis je pense que le film a eu de très bons retours, donc ça peut être intéressant d'aller voir l'expo.
Merci Simon. Marine.
Oui, alors est-ce que c'est vraiment un coup de cœur? Je n'en parlerai pas forcément comme ça, mais en ce moment, quand je rentre du travail, je me fais les replays de la quotidienne de la Star Academy. C'est mon petit, c'est mon petit retour en nostalgie, on va dire. J'ai 12 ans, alors il y a le tête à claque. La bonne idée, c'est d'avoir pris des gens qui ne savent pas forcément très très bien chanter, mais de les avoir pris un peu pour leur caractère. Voilà, des ados. Alors, on ne sait pas encore qui va finir avec qui, mais cette espèce de retour au télécrochet, télé-réalité, ça me réjouit.
Très bien, tu as raison. Ouvrons les horizons. Je vous remercie. Nous étions donc en compagnie de Simon Haro, Marine Quinchon et Nicolas Marcadet des Fiches du Cinéma. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous retrouve le mois prochain. Et Francis, je te laisse le mot et la chanson de la fin.
Ben, merci à vous quatre d'avoir été là. Alors moi aussi, j'ai une petite expo comme Simon. Alors, c'est même un festival, moi. C'est carrément de festival. C'est The Gin Addict Festival. Voilà, le salon des amateurs de gin, on va dire, pour pas traduire addict. Ça se tient en ce moment au Parc Floral de Paris, à Vincennes. Et en fait, c'est un salon où vous découvrez différents stands avec des gins. Hein, de différentes obédiences.
Le gin à boire, oui.
Le gin à boire, pas le gin à porter. Bien sûr, le dîner à boire, tu fais bien de le préciser. Voilà. Et alors, ce qui est hallucinant, c'est il ne faut pas abuser de l'alcool, je vous le rappelle, parce que c'est un festival où, à la différence des festivals de cinéma où on est bourré avec alibi, là, on peut être bourré sans alibi. Mais si vous êtes un amateur de gin, qui a un
alcool. Je suis bourré à cause des films.
Voilà aussi. Mais qui a un alcool qui, de plus en plus, devient la hype du moment depuis quelques années, allez découvrir. J'y suis allé hier soir, effectivement, c'est assez saisissant. Et du coup, les matinées, comme Simon, les matinées avant d'arriver au studio peuvent être un petit peu délicates. Voilà, et donc on va enchaîner parce qu'en fait ça me permet un enchaînement avec le disque dont on va parler. Parce que lorsque j'ai envisagé la programmation musicale de cette émission, je me suis fixé une petite contrainte façon Oulipo. Alors, ainsi, pour accompagner notre prise d'antenne, choix a été fait de la chanson Ouvrant Tarbes, le nouvel album de La Féline. Dans le même esprit, en guise de générique de fin à notre rendez-vous d'octobre, sera présenté le morceau concluant le disque que je vais vous évoquer. Un morceau au titre sonnant comme une prémonition au regard de Saturday Night Fever, qu'elle s'affiche esselée ou rassembleuse et qui fait un lien avec The Gin Addict Festival. Le titre, c'est « Ce soir, les bouteilles dansent ». Voilà, donc, de fait, pour son quatrième album solo intitulé Entre réitération et effacement Re-F, celui qui tour à tour a compté dans les effectifs des groupes Hyperclean, Stereolab ou Aquaserge, j'ai nommé Julien Gasque, a voulu conjurer la monotonie d'un confinement où chaque nouveau jour s'épuisait dans le jour précédent en découpant, autre type de contrainte littéraire, des textes tirés des ouvrages de sa bibliothèque et de ses propres chansons. Et en faire de la sorte la matière poétique d'une suite de 10 chansons où le piano est instrument majeur, les chœurs féminins et le son londonien. Alors, orfèvre parfois nonchalant à la manière d'un Jean-Louis Murat, souvent dandy minutieux dans la lignée d'un L. Hymon, Julien Gasque cultive cet art musical délicat du pas de côté, honni, cela va sans dire, par tous les adorateurs des passages cloutés. Et donc on va écouter pour finir ce soir les bouteilles dansent. C'était Longtemps je me suis couché de bonne heure, une émission proposée par Francis Gavel, présentée par Thomas Fouet et Francis Gavel, réalisée par Erwan Charton. Vous êtes sur l'antenne de Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4. Et on vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de notre émission. Et quant à nous, nous nous retrouverons le 26 novembre prochain. À très vite.
Ce soir les bouteilles dansent, les âmes se remplissent, elles rêvent comme jamais. J'ai souvent mimé l'évanouissement dans les brumes sur la route. Les brumes révèlent les traces de mon passage. Le regard du fou marque la zone. Je me souviens des ravages du poison de feu. Plus de fêtes à Santa Fe. Les nomades distribuent les cartes de lumière. Voilà le filtre à travers leurs projets. Aucune plantation derrière eux. C'est le je rêve comme jamais. J'ai souvent mimé l'assassin tremblant descendant ouvrir la porte natale. Les brumes révèlent les traces de mon passage. Le regard du fou marque la zone. Je me souviens de l'ambiguïté. Ce qui est important pour nous, la confiance, que les bouteilles dansent, que les bouteilles dansent.